le 18-20.
Le 18-20 ce soir sur l'opération que lance l'Obs et France Inter. L'idée est simple mais ambitieuse. Donner dans cette campagne présidentielle la parole à des citoyens ayant des projets de réforme pour la France. Des idées nourries de leur expérience qui pourraient, dans les secteurs de l'éducation, du travail, de la santé, de l'environnement, de l'écologie, du numérique, de la culture, qui pourraient donc faire bouger les choses. On appelle ça de la démocratie participative ou collaborative. Trois apporteurs de projets sont au micro d'Inter ce soir, sous l'œil sage et aiguisé du sociologue Alain Touraine.
Nicolas Demorand, le téléphone sonne.
Et vous pouvez intervenir via Twitter avec le mot-clé Telson sur le site internet de France Inter, franceinter.fr ou au standard. Un mot pour vous dire que France Inter a reçu depuis ce matin 1000 propositions de réforme. Il y aura un 18-21, une émission spéciale mi-mars en direct et en public. Je vous en dirai plus, amis auditeurs. Bonsoir Marc.
Bonsoir.
Bienvenue.
Bonsoir tout le monde. Merci. À la vision de ce que nous entendons tous dans les médias depuis un certain temps, compte tenu de la campagne présidentielle qui se déroule en ce moment, moi je dirais que tout simplement, on est dans un système qui a au moins 3 siècles, sinon plus. Il faudrait tout mettre à plat, complètement. Il faut repartir de zéro, imaginer autre chose, un système de 21e siècle, et mettre l'écologie au centre. La femme, la jeunesse, tout ce qu'on met à la périphérie aujourd'hui et finir avec un système qui est totalement vétuste et dépassé, je pense.
Merci Marc pour cette question introductive. Permettez-moi de vous présenter les invités de ce téléphone sonne. Leïla Ouada, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chef d'entreprise, porteur du projet DAM. Vous nous direz de quoi il s'agit tout à l'heure. Jean-Michel Klein, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes médecin ORL, otorhino-laryngologiste. Emmanuel Druon, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le président de l'entreprise Pocheco et je salue Alain Touraine, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, auteur du Nouveau siècle politique aux éditions du Seuil. Alors, avant de distribuer la parole et de vous faire décrire les différents projets que vous portez dans cette campagne présidentielle, juste un mot Alain Touraine sur ce que disait notre auditeur Marc. Notre démocratie est vieille, elle est fatiguée, elle est bloquée, il y a tout un tas de sujets qu'elle ne parvient plus à traiter et qu'il faudrait pourtant mettre au centre du débat politique. Quelle analyse faites-vous de l'état de la démocratie française ?
Je n'irai pas les choses tout à fait comme ça, parce qu'il y a 200, 300 ans, il n'y avait pas beaucoup de démocratie de toute manière. Mais ce que je dirais, c'est que nous vivons avec une démocratie qui, premièrement, est limitée au domaine de l'État. Il n'y a pas que l'État dans une société. Il y a l'école, il y a l'hôpital, il y a les maisons de retraite, les villes, enfin tout ce qu'on voudra. Donc on a une vision extrêmement étroite. Et le grand problème français, c'est de se transformer en une société démocratique et non pas en une société non démocratique avec des élections démocratiques. C'est quand même pas la même chose.
Il faut démocratiser la République, c'est ça ?
Il faut démocratiser la société, c'est-à-dire l'entreprise, l'école, l'hôpital, tout. Enfin, tous les milieux réels de vie.
Comment expliquer Alain Touraine, et ensuite la parole donc aux apporteurs de projets, comment expliquer que la République française ait tant de mal à faire une véritable place aux citoyens ?
Je dirais pas ça. Parce que le mot citoyen, je le trouve pas bien choisi, parce qu'elle fait, je dirais presque, trop de place aux citoyens et pas assez aux travailleurs, aux malades, à l'élève, à l'étudiant et aux vieillards, etc. La grande affaire française, les Français ne se sont jamais intéressés à la société. Ils ont toujours considéré que la seule chose importante, c'est l'État, le roi. Les Français sont royalistes. On appelle ça républicain en prononçant de manière un peu différente.
Comment en êtes-vous venu, et je me tourne vers mes trois autres invités, Leïla Ouada, à intervenir et à porter un projet, le projet DAM. Vous allez nous expliquer en quelques mots juste après de quoi il s'agit. Mais vous vous sentiez frustré en tant que chef d'entreprise ? Vous aviez l'impression de ne pas avoir voix au chapitre ?
Alors, je veux juste rectifier, je suis une entrepreneuse sociale en fait, et le fait d'avoir mis toutes ces actions en place, c'est d'abord, à l'origine, c'est parce que je suis moi-même issue des métiers du bâtiment. Donc, sur toute ma durée d'expérience, j'ai fait des constats, bien évidemment. Et j'ai constaté que les femmes n'avaient pas leur place dans le bâtiment, mais plus largement dans la société, en fait.
Oui, c'est ça, parce que le projet que vous portez, il part du bâtiment, mais il permet une réflexion beaucoup plus large sur la place des femmes au travail, dans l'économie, dans l'espace public, dans la démocratie, etc. Exactement. Alors, votre projet, comment le décrire en quelques mots? Dites-nous, qu'est-ce que vous proposez de faire donc pour féminiser aussi ces métiers du bâtiment?
Au départ, c'est faire des réunions d'information auprès des structures, déjà SIAE, qui œuvrent sur des thématiques emploi-formation, pour justement permettre à des femmes qui n'ont pas de bagage professionnel ou de formation de base, d'essayer de leur permettre d'aller vers des secteurs qui justement offrent énormément d'opportunités professionnelles et de développement. Parce que le bâtiment, c'est un secteur très très large qui permet cette évolution.
Et pourquoi le métier est fermé aux femmes ?
Pour plusieurs raisons. Parce que c'est un secteur traditionnellement ouvert aux hommes, à la base. On peut y trouver plein d'arguments à ce niveau-là, la pénibilité et plein d'autres. Mais je pense qu'aussi, il y a des freins psychologiques au niveau des femmes elles-mêmes. Donc il faudrait pouvoir apporter un éclairage à tous les différents acteurs qui sont justement là pour orienter ces femmes depuis le plus jeune âge.
Alors,
déjà.
Par où on commence? Votre proposition est technique et permet de répondre à la question. On commence par les marchés publics, c'est ça?
On commence par agir sur le terrain, déjà, puisqu'il y a des dispositifs qui existent, qui sont très bons, notamment les clauses d'insertion, qui permet justement à des personnes éloignées de l'emploi, notamment, mais qui jusque-là n'en profitent qu'aux jeunes hommes. Donc il faudrait pouvoir justement se servir de ces dispositifs pour que les femmes puissent découvrir ce secteur.
Acceptons-en l'augure, espérons que cette proposition, ce projet sera porté dans la campagne présidentielle. Je vais demander dans quelques instants à Alain Touraine son analyse de cette question du travail des femmes et de l'interdiction symbolique qui frappe certains secteurs. Poursuivons notre premier tour de table avec Emmanuel Druon. Alors vous présidez l'entreprise Pocheco. Dites-nous de quoi il s'agit, qu'est-ce que cette entreprise et quelle proposition vous portez dans cette campagne présidentielle?
Pocheco produit 2,2 milliards d'enveloppes en papier tous les ans dans le nord de la France. Et cette usine est composée de 130 collègues qui, depuis 20 ans, ont considéré qu'il fallait pouvoir entreprendre sans détruire. La difficulté, c'est que les ressources s'épuisent. Et les rapports du groupement intergouvernemental des études sur le climat, les uns après les autres, nous disent que les ressources de la lithosphère sont épuisées, que celles qui ne le sont pas doivent être laissées en place si on veut pas accélérer le réchauffement climatique. Tout le problème pour l'industriel consiste à ne plus se servir que de ressources naturelles qui se renouvellent à l'échelle du temps humain. Alors, dans notre cas, depuis 20 ans, on a réussi à mettre ça en place sur toutes les matières premières qu'on utilise pour fabriquer nos enveloppes. Ce sont des forêts qui sont renouvelées à chaque fois qu'un arbre est coupé, 4 sont replantés. Ce sont des encres qu'on utilise qui sont à base d'eau et de pigments naturels et qui sont donc recyclables dans une bambousette phytorémédiation. Ce sont des procédés qui nous ont permis aussi de redécouvrir le plaisir de travailler ensemble puisqu'on entreprend sans détruire et donc on peut rétablir un lien au monde, à la vie, au sein même de son travail, même quand on travaille dans une usine dans le nord de la France.
Alors pour encourager ces démarches vertueuses, vous proposez de vous servir de l'arme fiscale.
Oui, il faut trouver un moyen, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, et on entend beaucoup dire que les entreprises et les entrepreneurs sont toujours un petit peu agacés par la fiscalité française, ce qui n'est pas mon cas. Moi, je trouve qu'il faut bien financer les services publics, qu'on a quand même un pays formidable et merveilleux, et grâce aux impôts, on arrive à faire beaucoup de choses. Mais je me dis, pour pousser réellement, dans le fond, les rapports du GIEC et les différentes enquêtes prouvent qu'on dispose d'une vingtaine d'années pour modifier nos habitudes. Calmement, mais fermement. Alors, peut-être qu'un moyen de pousser les entreprises à changer de braquet sur la question de l'écologie, ce serait peut-être en effet de dire, bah, si vous utilisez des matières renouvelables à l'échelle du temps humain, alors on réduira vos impôts. Parce que vous participerez, en fait, de la baisse de l'impact de votre activité sur l'environnement.
Une dernière question de curiosité. À l'heure du courrier électronique, l'enveloppe papier est un secteur d'avenir?
Nous sommes justement un métier en effondrement. Et j'ai pas de réponse ni de certitude sur le long terme. Nous préparons la suite, nous travaillons à toujours préparer la suite, mais surtout nous considérons que comme secteur en effondrement, si ça a permis de littéralement sauver l'entreprise depuis 20 ans, de produire de façon écologique, on s'est aperçu que c'était plus économique de produire de façon écologique. Ça marche pour nous, ça marche pour une entreprise indépendante sur un marché en effondrement. Alors peut-être que c'est duplicable et que ça peut servir à d'autres.
L'économie et l'écologie, Alain Touraine, note précisément ce que vous êtes en train de dire. C'est un deuxième continent à côté de celui de l'égalité homme-femme. On poursuit notre tour de table avec Jean-Michel Klein. Alors, dites-nous... comment en êtes-vous venu à vous inscrire dans la campagne présidentielle et pour porter quoi un projet pour la santé?
Je m'inscris pas à la campagne présidentielle.
Oui, non, mais enfin,
rassure, comme médecin,
voilà. Vous avez usé de votre droit d'interpellation.
Depuis un certain nombre d'années, je préside aux destinées syndicales des ORL. Donc, on est en période de mutation. Le système de santé, qui est un système formidable, est en pleine crise. Comme l'a dit l'auditeur tout à l'heure, le temps a passé, on n'a pas réformé, et on risque d'aller vers une révolution à force de ne pas faire d'évolution. Donc, l'idée, c'est de tirer vers le haut. On s'appelle tous professionnels de santé. On peut être médecin, généraliste, spécialiste, on peut être professeur, on peut être docteur, on peut être infirmière, kinésie, et ainsi de suite. On a tous une compétence pour laquelle on a été formé. Moi, j'ai 13 ans d'études, donc j'ai une certaine compétence. Actuellement, dans ma pratique, qu'est-ce que je fais? Je soigne des petites choses que j'ai pas vraiment à soigner, qui pourraient être faites par quelqu'un d'autre. J'ai été formé à faire des explorations fonctionnelles, à opérer, à faire de la chirurgie, et il faudrait que je remonte dans ce secteur-là. Donc on a besoin à ce moment-là de moins d'ORL, par exemple, puisqu'on sera cantonné sur un secteur d'activité. Ce que je ne ferai plus, c'est le médecin généraliste qui peut le faire. En montant d'un cran, il devient un mini-interniste. On a une spécialité en médecine qui s'appelle la médecine interne. Donc, il pourrait très bien, aider par un serveur style, je fais pas de publicité, Dr. Watson, être sécurisé dans son diagnostic et faire une partie de ce que je fais actuellement. Qu'est-ce que faisait le généraliste? Souvent, il a une activité relativement classique, avec notamment des renouvellements d'ordonnances. On va pas réduire à ça, évidemment. Tout ça, ça peut être fait par une infirmière, avec un cahier des charges bien défini, de façon à développer, gagner du temps médical. De même, ce que fait un médecin généraliste peut être fait aussi par un kinésie. Ce que je fais parfois en rééducation de l'équilibre peut être fait par un kinésie. Donc, on peut chacun se poser des questions en toute transparence, pour s'appliquer à soi-même ce qu'on désire, c'est-à-dire ne faire que ce à quoi on est formé.
Avec donc un processus de montée en gamme à toutes les échelles de la machine de santé. C'est possible, vous l'avez dit, la France, vous l'avez écrit, la France est bonne en révolution, elle est moins bonne en évolution. Comment on fait faire cette évolution au système de santé?
C'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est la démocratie participative. Aller vers le terrain et penser que c'est le terrain qui peut apporter la solution et non pas, je suis méchant avec personne, les énarques ou les grands cercles de discussion parisiens. Donc en territoire, on peut très bien reconstruire le maillage territorial, aider par les objets connectés, partager la science avec le patient, faire rentrer le patient dans la maladie. Le médecin est un accompagnateur, c'est pas le dieu de la planète. Donc nous, on descend un peu de notre piédestal et tout le monde monte et tout le monde peut y gagner.
Vous pensez voir votre réforme appliquée ou pas, un jour? Silence est éloquent.
J'ai une phrase de Vlacka Vavel qui dit que on fait parce qu'on sait qu'on doit faire. Après, que ça marche ou que ça marche pas, c'est pas notre problème. Ça peut marcher, c'est justement une force que de ne pas se fixer sur l'objectif. Donc, je souhaite que ça marche, je ferai tout pour que ça marche, ça fait... 10 ans que je suis engagé dans ces actions-là, on a une opportunité actuellement. Serons-nous entendus? C'est un problème de surdité, donc d'ORL.
C'est bon, vous avez fait le diagnostic et la feuille de soins. Avant de passer la parole à Alain Touraine, je voudrais la donner à Christiane qui est au standard. Bonsoir.
Oui, bonsoir à tous et merci pour vos émissions.
Merci à vous, vous êtes ancienne conseillère municipale, nous vous écoutons.
Oui, donc ce que je voudrais dire, nos institutions sont bonnes. En plus, nos parents, grands-parents se sont battus pour elles. Donc, il faut absolument les conserver, tout ce qui concerne sécurité sociale. Enfin, vraiment revenir même à une sécurité sociale comme je l'ai connue. J'ai 70 ans, donc comme je l'ai connue dans ma jeunesse, peut-être d'autres personnes autour là aussi. Et donc consolider donc nos institutions bien, et puis ensuite vraiment descendre au niveau local. Et prendre vraiment l'avis des personnes qui sont concernées dans tous les domaines de la vie sociale, donc comme la santé, l'hôpital, l'école, et surtout la protection de l'environnement et la protection de l'environnement local, et que ce soit les gens qui donnent leur avis, qui bien sûr aidés par des experts et des techniciens, mais il faut que la parole soit laissée aux gens qui vivent localement. C'est eux qui vivent là, donc c'est à eux de décider ce qui est quand même bien, bien pour eux et bien dans leur vie. Voilà. Voilà ce que je voulais dire.
Merci beaucoup Christiane pour votre intervention. La parole donc à Alain Touraine. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, on l'a entendu là, un mouvement de réflexion qui part de la base vers le sommet. Et ce que nous dit Christiane, c'est que le sommet doit aussi savoir retourner vers la base, que les institutions sont bonnes pour le dire, mais qu'il faut qu'elles aient des capteurs très profonds et qu'elles laissent faire aussi à la base, Alain Touraine.
D'abord, je dois dire que je suis impressionné par ce que vous faites en ce moment, tous, enfin vous trois et vous le grand patron.
Non, c'est vous le patron.
Non. Je veux dire, c'est une chose qui est vraiment impressionnante dans ce pays où les gens sont absolument disposés à faire les transformations qu'il faut faire. Ils ont des orientations qui sont dans l'ensemble très positives et surtout, chose tout à fait nouvelle en France, tout repose sur la confiance et non pas sur la défiance ou l'attaque. C'est pas du tout une sorte de petite guerre civile pour obtenir le déplacement d'un bureau de poste ou n'importe quoi. Bon. Alors ça me semble, je dirais, je fais l'hypothèse, qui est avec quelques bases, mais je dis l'hypothèse, je présente l'hypothèse que les Français sont en ce moment des gens informés, bien disposés à faire des changements en profondeur, et en même temps, et ça c'est un peu plus étonnant pour moi-même, je dirais, je suis étonné de voir que les Français aiment plus que je ne le pensais, la France.
C'est ce que vous entendez là, dans ces différentes propositions.
C'est ça que j'entends dans ces propositions et dans d'autres qu'on peut enregistrer ailleurs.
Il y en a un nombre colossal au standard de France Inter de propositions, on va y venir.
Ça ne m'étonne pas, c'est ça. C'est ça le fait. Vous comprenez, vous avez déjà gagné votre parti et votre pari. Parce que les Français sont des gens... Laissons les problèmes des élections, des candidats, etc. Les gens, la société, les Français d'abord acceptent d'être considérés comme Français, même s'ils sont nés Algériens, ou s'ils sont nés Polonais, ou s'ils sont nés Côte d'Ivoire, ou je sais pas où. Bon, non mais c'est quand même, c'est pas le discours qu'on entend tous les jours. Et la France est un pays qui a de la malléabilité, et qui a même, chose que j'aurais jamais dite il y a quelques années, de la bonne volonté. Parce que nous sommes aujourd'hui convaincus qu'on risque gros, et à court terme. Et donc, il faut se bouger.
Alors, la parole à Emmanuel Druon, vous voulez intervenir, allez-y, je vous en prie.
Oui, pour rebondir sur ce que dit Monsieur Touraine, et ce que disait votre auditeur Marc tout à l'heure à propos de l'écologie, dont je constate, moi, que c'est une solution et pas un problème. Nous, comme entrepreneurs, notre quotidien, comme beaucoup de gens, je crois, c'est de transformer une difficulté en opportunité. Et je vois aussi 2 millions de spectateurs, même dépasser 2 millions de spectateurs pour le film Demain de Cyril Dion et Mélanie Laurent, qui a rencontré vraiment un énorme succès, et qui est un film qui porte des solutions. Et donc voilà, en effet, l'écologie, la démarche citoyenne sont des solutions qui fonctionnent partout en France. Il y a des exemples qui se multiplient.
Qui veut la parole en studio? Sinon, oui, allez-y, Jean-Michel Klein.
Oui, je pense aussi qu'il faut qu'on change un peu de culture. On est à la fin d'un système qui a été favorable dans les années 50, mais on arrive maintenant à une situation de poker menteur. C'est-à-dire qu'on est dans une société où c'est celui qui ment le plus qui va gagner. Et il faudrait qu'on passe dans une société, comme je pense l'Allemagne, de partenariat. C'est-à-dire qu'on a des problèmes à résoudre, on s'écoute les uns les autres, on écrit, comme au Québec, une lettre d'entente pour s'entendre sur un objectif, et en fonction du résultat, on remet en cause ce qu'on a pu atteindre ou ne pas atteindre.
Gisèle, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bienvenue.
Merci beaucoup. Désolé
pour les 20 minutes d'attente.
Non, non, ça n'a aucun souci. En fait, merci pour la qualité de votre émission.
Merci à vous.
Et puis, en fait, moi, si j'étais présidente, il y a quelque chose qui me tient à cœur. En fait, je côtoie des gens qui vont travailler à reculons. Ils ne sont pas heureux dans leur travail. Moi, présidente, si vraiment j'étais présidente, j'allais faire en sorte de passer dans chaque corps de métier. Et vraiment, que ce soit femme de ménage jusqu'au plus haut, vous voyez ce que je veux dire. Et puis, répertorier tous les problèmes de l'entreprise au niveau de chaque personne. Faire des groupes de parole, en fait. Répertorier tout ce qui ne va pas. Trouver des solutions ensemble, avec les gens qui sont responsables de leur métier, et évaluer après. Voilà, ça, un premier point. Et puis prendre en compte aussi la pénibilité du travail, le transport, les gens qui ont du mal à faire garder leurs enfants. En fait, c'est un tout. L'être humain, c'est un tout, c'est complexe, il faut prendre en charge. Il faut prendre en compte chaque problématique comme ça.
Merci pour votre intervention, Gisèle. On voit cette critique dans les mots de Gisèle Alain Touraine. Le pouvoir est loin. Et peut-être aveugle, il est coupé d'une partie de la société, il faut donner la parole.
Il se coupe,
voilà, enfin je ne sais pas si c'est structurel ou conjoncturel.
Parce qu'on joue l'État contre la société. Et l'État, il doit être représentatif. La démocratie, avant d'être participative, elle doit d'abord être représentative. Et pour qu'elle soit représentative, il faut qu'elle soit participative. Il faut que les deux choses se lient. Bon, ce qui est tout à fait impressionnant, les Français veulent s'occuper de leurs affaires. Et ils pensent qu'ils en sont capables et que tout ça n'est pas foutu. Ils ont confiance en eux-mêmes.
Mais alors,
ils disent, laissez-nous faire.
Qu'est-ce qui coince? Où est-ce que ça coince?
Ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire l'opposition, on procède toujours par opposition. Si t'es pour l'État, t'es pas pour la société. Si t'es pour la société, t'es pas pour l'État. Si t'es pour les femmes, t'es pas pour les hommes. Si t'es pour les hommes, t'es pas pour les femmes. Si t'es de droite, t'es pas de gauche, etc. C'est-à-dire que les Français sont persuadés que la vie sociale et la vie individuelle, c'est fondé sur des conflits. C'est une sorte de vieux christianisme d'autrefois. On a commis une faute et on s'en sortira jamais. Vous comprenez? Et donc, il faut qu'il y ait le père Fouettard qui dise, allez, fais ce qu'on te dit de faire, parce que toi, t'es pas foutu de t'en sortir tout seul. Les Français sont devenus, quant à leur pays et à eux-mêmes, démocrates.
Emmanuel Druon voulait intervenir, et puis on fait le tour de table.
Gisèle a parlé de la pénibilité. Et dans le travail, eh bien, nous, chez Pocheco, on s'est aperçu que si on renonce à la distribution du capital, c'est-à-dire si on renonce à la distribution des dividendes, et que les salaires sont de 1 à 4, ce qui est le cas chez nous, alors on peut se concentrer sur le fait de baisser à chaque investissement l'impact de notre activité sur l'environnement, mais en même temps, la pénibilité et la dangerosité des postes. Tout en même temps, on gagne de la productivité pour garder des marchés. Je veux dire que donc, je suis d'accord avec ce que dit Alain Touraine. Nous ne sommes pas en contre, nous sommes dans un cercle vertueux plutôt que d'entretenir toujours un cercle vicieux.
Et vous décrivez un contrat social à l'intérieur de l'entreprise, là.
Absolument. Celui depuis 20 ans qui nous a permis vraiment de sur ce marché en effondrement. Mmh. Vous voyez, si on dit que la société est en effondrement, notre tout petit exemple est extrêmement encourageant. Parce que sur un marché en effondrement, on peut tout reconstruire avec un contrat social.
Mmh. Jean-Michel Klein.
Je suis tout à fait d'accord. Ce qui compte dans une entreprise, c'est l'adhésion du personnel au projet de l'entreprise. Nous, on a la chance d'être médecin et d'être dans une passion. Je ferais peut-être pas la même chose si j'avais pas une passion. Moi, la vie avec le patient, c'est je t'aime moi non plus. C'est-à-dire, on les adore et on les déteste à la fois, puisqu'on risque toujours l'erreur.
Merci pour nous.
Mais
on pensait que vous nous aimiez
dans
uniquement.
Dans ce que disait.
Je comprends mieux plein de choses maintenant grâce à vous.
J'aurais pas dû dire ça.
Allez-y. Dans ce que disait
l'interlocutrice, enfin l'auditrice, c'est essentiel. Faire un métier. Sans passion, sans amour ou subi, on aboutit à des drames à la fois pour l'entreprise et pour l'individu. Et c'est le devoir de notre société que de rendre un plaisir à chacun dans un objectif ou un parcours de vie.
Leïla, vous voulez la parole? Leïla Ouada, pardon.
Oui, je pense que effectivement, on aime notre pays. Les Français, les Françaises aiment leur pays. Je pense qu'effectivement, les Français, les Françaises ont conscience de l'état actuel des choses, et notamment le marché de l'emploi. Et je pense aussi que les Français sont aujourd'hui capables de se prendre en main. D'accord, moi qui suis, qui côtoie un petit peu les TPE, PME, on sent qu'il y a, depuis plusieurs années, ça s'est dégradé considérablement. Il y a deux types de TPE. Il y a celle qui saisit une opportunité financière uniquement pour justement en récolter les fruits. Et puis il y a les gens passionnés, effectivement, qui font et exercent leur travail avec cette passion et le fait de vouloir retransmettre les compétences, etc., etc. Donc, je pense qu'effectivement, il faudrait faire confiance aux Françaises et aux Français pour justement permettre cette évolution dont on a besoin. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que ça stagne, que rien ne bouge, que c'est coincé. Donc, voilà, il faut aussi une volonté politique pour...
Alors, il y a énormément de questions politiques au standard, des questions institutionnelles aussi. On va donner la parole à Frédéric de Pau.
Oui, bonsoir à tous.
Bonsoir Frédéric.
Bonsoir. Bien écoutez, moi je pensais au Sénat, puisque sa réforme avait été prévue par De Gaulle, puis également par Jospin. On constate aujourd'hui qu'il a un rôle législatif mineur. Alors moi j'avais pensé d'une part à changer sa composition et d'autre part son rôle. Sa composition, elle pourrait être faite par moitié des membres du Conseil économique et social et environnemental, qui représente un petit peu la société. Et par moitié, eh bien ma foi, on pourrait imaginer des sénateurs tirés au sort, un ou deux par département, parmi des électeurs qui n'auraient jamais été encartés. Bon, on se plaint, on dit que les citoyens sont déçus par leurs élus, bien là, les citoyens seraient directement élus. Mmh. Et quant à son rôle, si je peux me permettre
Allez-y.
Encore un mot, bien écoutez, il a un rôle législatif, je le disais, qui est quasi nul. Je pars du constat que le budget social en France représente 700 milliards. Plus important que le budget de l'État qui est à 400 milliards. Donc on aurait pu demander à ce Sénat rénové de faire des propositions, d'être une chambre sociale de réflexion sur tout ce qui touche au social, c'est-à-dire le travail, les retraites, le revenu universel si on veut, voilà.
Merci monsieur le sénateur de Pau. Frédéric, la réforme est très mûre dans votre tête. J'aimerais juste, avant qu'on en parle bien entendu, citer la question de Serge Dupuy-Dôme. Je propose que les ministres et les députés soient traités comme en Scandinavie, où ils ont une vie plus proche des citoyens. Jean-Luc de la Creuse, j'aimerais que soit restitué un droit de révocation des élus qui ne donnent pas satisfaction lors de leur mandat. Et enfin, de manière plus générale, Claude des Pyrénées, une grande réforme de la vie politique. Vite, 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 on se moque complètement des Français, il faut beaucoup moins d'élus. Malaise dans la démocratie représentative quand même, non Alain Touraine?
Je suis pas tellement sensible à ça, parce que c'est encore une fois une manière de chercher une sorte de bouc émissaire. La théorie du complot, il y a les méchants quelque part, en haut, à droite, à gauche, etc. Je pense que, nous sommes probablement tous d'accord pour dire que le Sénat, c'est pas une des institutions dont on est le plus fier. Mais bon, ça me semble pas dramatique.
Elle a été créée pour ça en même temps.
Oui,
cette institution.
Non, elle a été créée pour sauver les intérêts de la France rurale.
Oui, pour stabiliser le Parlement échevelé.
Parce qu'on peut pas dire que la France ouvrière soit particulièrement représentée par conséquent. Bon. Non, ce que je voudrais dire est plus en accord avec ce qui s'est dit autour de cette table, et qui est qu'il faut avoir un objectif en politique qui est un objectif qui concerne directement les gens, les individus, les groupes, etc. Et je vais vous dire mon opinion là-dessus, car il y a un mot qu'on entend partout, dans le monde entier, qu'on entendait dans la bouche de Mandela tout le temps, et qu'on entend dans la bouche du pape François tout le temps, et qu'on entend en Amérique latine ou en Asie, qui est le mot « dignité ». Gouverner, c'est respecter la dignité des individus et des populations tout entières. C'est-à-dire, le but de la politique, de la gestion, ce n'est pas des résultats, changer le produit intérieur brut, ou etc. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas important, évidemment. Mais le but final, fondamental, c'est que les gens se sentent non humiliés, d'abord. Non humiliés. Qu'ils se sentent respectés. Voilà des mots qui pèsent plus lourd que des tas de lois ou de règlements.
Jean-Michel Klein.
Oui, pour prolonger cette réflexion, est-ce qu'on peut décemment faire carrière dans ces postes-là, sachant que notre dynamisme va s'émousser au bout d'un certain temps? On a un message à faire passer, comme chacun de nous autour de la table, mais on a un message, et pas un message universel. Donc est-ce qu'au bout de 10 ans, 15 ans, la notion de carrière dans ces métiers-là...
Dans le monde politique, vous voulez dire.
Est-ce que c'est pas un problème qui émousse un peu? D'un autre côté, ça peut être un avantage, puisqu'on a des relations, et donc on gagne aussi...
Oui, puis c'est un métier, la politique, qui implique une professionnalisation. Il y a une passion, mais il faut aussi... savoir en faire, c'est technique ces métiers, c'est oui, pas oui. simplement des métiers, le but n'est pas simplement d'être élu, enfin non. Il faut aussi savoir, enfin j'imagine, il y a un savoir politique, non? Ou je suis le seul à le penser, Alain Touraine?
Vous savez, si vous regardez concrètement les choses, le problème n'est pas tellement de savoir si le type qui est ministre, le type ou la femme qui est ministre va l'être, ou député va l'être
toute sa vie ou 10 ans,
c'est qu'aujourd'hui, et c'est quand même beaucoup plus concret et beaucoup plus grave, le Parlement ne décide plus rien. Vous savez, on s'est fâché lorsqu'il y a eu cette histoire du Code du travail qui allait passer avec le 49-3. Moi, ça m'a coupé la respiration. Parce que qu'est-ce que ça de démocratique de faire que la chose la plus sociale du monde, le Code du travail, quand même, 100 ans de discussion de toute la France, ne passe plus par le Parlement? Alors, à quoi ça sert, le Parlement? Ils discutent des autoroutes? Bon. Alors, je dirais que ce qui est fondamental, c'est que les choses fonctionnent comme elles doivent fonctionner, c'est-à-dire que le Parlement fait les lois, les prépare, les discute. Ce n'est pas les cabinets. C'est pas le ministre qui revient régulièrement, qui est dangereux. C'est que les choses, les affaires, l'influence, la décision ne se fait plus au Parlement, mais dans les cabinets du président de la République, du Premier ministre et du ministre des Finances. À Bercy, à Matignon et à l'Élysée. Ça, c'est inadmissible.
Emmanuel Druon.
Oui, moi, je pense qu'il ne faut pas non plus que ce soit les lobbies. Les lobbies qui décident à la place du peuple, c'est pas possible. Voilà. Et donc professionnels, oui, les politiques le sont souvent. Je vous rejoins tout à fait, mais pas sans remettre aux lobbies. Le fait que les lobbies puissent avoir accès aux députés, rentrer dans les assemblées, que ce soit en Europe ou en France, ça pose un sérieux problème de représentation démocratique.
Ou à Bruxelles, effectivement, au Parlement européen. Vous voulez dire un mot, Leïla Wada?
Oui, par rapport à toutes ces démarches, justement, des structures associatives ou autres, celles qui font partie, justement, qui font avancer les choses sur le plan social, par exemple, ce qu'il faudrait, c'est aussi arrêter de que ce soit les énarques qui font, justement, tous les documents qui transitent vers ces structures, parce que c'est incompréhensible. C'est vraiment un jargon très particulier. Pour en citer qu'un, les demandes de financement, par exemple, c'est il faut juste une personne compétente qui peut traduire ces documents pour faire évoluer les choses. Simplifier le plus possible tout ce qui est documents administratifs.
C'est un enfer pour vous au quotidien ou pas?
C'est même pas un enfer, c'est juste...
C'est pire que l'enfer.
C'est pire que l'enfer. C'est ne serait-ce que pour citer le FSE, par exemple. Mais il y en a beaucoup qui sont découragés avant même d'avoir déposé leur dossier. Mais même pour les entreprises, pas seulement pour les associations, les entreprises, simplifions et en fait laissez les Français travailler. Mmh. Parce que je vous assure qu'on ne peut pas être sur le terrain et tenir à jour son administration tellement c'est compliqué.
C'est deux métiers.
C'est deux choses
deux métiers
totalement
à plein
différentes.
Temps. Oui. Emmanuel Druon, sur cet aspect des choses.
Sur cet aspect des choses, je pense que vous avez raison. Je partage votre avis. Je pense qu'il faut tout de même des règles et que ces règles soient très claires pour pouvoir travailler en société collectivement. Il nous faut des règles et il ne faut pas la jungle. Mais je me souviens de Corinne Lepage qui avait proposé qu'à chaque fois qu'une nouvelle loi était édictée, alors elle devrait en remplacer deux. Et en effet, dans tous les domaines, on pourrait simplifier en procédant comme elle nous l'avait proposé. C'est-à-dire, j'écris une nouvelle règle et j'en supprime deux. Voilà, comme on le fait tous. Vous voyez, notre usine, elle est, régie par la méthode des 5 S. On sait que c'est dangereux si des choses traînent dans les allées. Alors, on supprime pour que rien ne traîne. Alors, faisons la même chose avec les lois.
Jean-Michel Klein.
Oui, moi, je vais dans le même sens. En médecine, pourquoi est-ce que les jeunes ne s'installent plus en libéral? Parce que c'est une usine à gaz, parce qu'on est pixelisé dans nos comportements. Dès que je touche la bouteille, il faut que je sache pourquoi et je dois faire. Donc je suis transformé en parcmètre. Est-ce que la médecine, c'est un parcmètre? C'est pas possible. Donc on se sent étouffé, pixelisé à outrance. Et donc on avait besoin de ça, mais peut-être que maintenant on a besoin d'autre chose et qu'on faut revenir à une démocratie de la base, du terrain et tenir compte. Je pense qu'on est suffisamment adulte pour respecter certaines règles.
Une dernière question, on va revenir très souvent dans les semaines et les mois qui viennent avec le Nouvel Observateur, avec France Inter bien entendu, et avec vous si vous le permettez, sur les différents projets que vous portez. D'autres vont émerger. Juste une question pour finir, êtes-vous en appétit avec la campagne présidentielle là, qui va arriver à son terme d'ici 2-3 mois, ou vous êtes plutôt, sceptique? Vous êtes dans quel état, dans quelle humeur démocratique?
Moi, je suis plein d'attentes.
Emmanuel Druon, pardon.
Oui, plein d'attentes, plein de joie, plein de perspectives. On parle enfin d'écologie sérieusement, avec un débat qui peut se construire autour de ça, et je crois que c'est très important.
Et vous, Leïla Ouada? Mouais.
Pas d'attente.
Pas d'attente.
Pas d'attente. On prend les mêmes et on recommence. Donc
vous allez voter?
Je pense pas.
C'est vrai, vous estimez que...
Pour qui? La question, c'est pour qui?
Enfin, c'est votre choix. Mais
non, mais c'est une vraie question qui se pose.
Bien sûr.
Pour qui?
Mais vous n'estimez pas que le bulletin de vote a encore un minimum de pouvoir?
Si les votes blancs étaient comptabilisés.
Beaucoup de propositions dans ce sens,
oui,
au standard.
Parce que c'est important.
Même question à Jean-Michel Klein.
Moi, je pense que c'est le moment d'y aller. On a une chance possible, c'est que comme ils ont l'air de manquer un peu de projets, si nos projets peuvent quelque part leur plaire, nous, on les laisse porter. Moi, je cherche rien, on ne cherche rien pour nous-mêmes. Donc, il y a une fenêtre qui doit s'ouvrir ou qu'on va peut-être forcer d'ouvrir.
Alain Touraine, vous avez le mot de conclusion en 15 secondes. Vous allez aller voter.
Je suis moins optimiste. Les Français savent contre quoi ils sont et contre qui ils sont. Ils ne sont pour personne.
Merci à tous les quatre et aux très nombreux auditeurs d'Inter ce soir. Je vous redis que nous ferons un 18h-21h, 18-21, une émission spéciale donc mi-mars en direct et en public. J'espère que vous viendrez interpeller les hommes et les femmes politiques de cette campagne. Merci encore à vous d'être passé au micro de France Inter.